Cause Studio.
Eh ben écoute, ravi d'enregistrer cet épisode avec toi Audrey. C'est non. Très très cool, entre podcasteurs.
Voilà.
Parce que ça fait longtemps, ouais. Ouais, exactement. Je disais justement à Audrey juste avant que c'est agréable d'enregistrer avec des podcasteurs qui savent. Parce que du coup, tu connais un peu la partie technique, mais tu sais aussi la difficulté que ça peut être de partager un message et de le délivrer à la cible, plus les gens qui ne sont pas encore forcément informés et qu'on a envie de toucher quand même. Petit message du coup, si vous commencez cet épisode, si vous l'aimez cet épisode, et d'ailleurs même si le titre vous a fait plaisir, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler à vos amis, parce que le bouche à oreille, c'est ce qui nous aide le plus à grandir. Voilà, c'était une petite intermède avant même d'avoir démarré l'épisode. Aujourd'hui, on va discuter des limites planétaires. C'est un épisode qu'on n'a jamais fait encore. On n'a pas parlé de limites planétaires en plus de 120 épisodes, en plus de 2 ans et demi de contenu. Alors non.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, écoute, je pense qu'on l'a abordé en filigrane dans plusieurs épisodes, et notamment assez récemment avec Nathanael Vallenhorst, où on a parlé d'anthropocène. Évidemment, l'anthropocène, c'est l'impact humain sur la planète, donc on ne peut pas ne pas parler de limite planétaire, mais on n'a même pas évoqué, je pense, le mot limite planétaire dans l'épisode, ou alors très très vaguement, quoi. Ravi de rendre ça très très explicite dans ce podcast avec toi, et puis de parler aussi de ton vécu, de ton déclic, de rencontres un peu fabuleuses que tu as faites lors de ce podcast, parce que tu as eu des invités qui sont des maîtres à penser sur leur sujet de prix d'élection à chaque fois. Tu as essayé de faire le tour avec ce podcast Dernière Limite, donc, que tu as sorti avec Saga Sand il y a 2 ans, pour une date anniversaire un peu importante, celle de la sortie du rapport Meadows sur les limites à la croissance, mais du coup sur les limites en général. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
Ravi d'être là, en tout cas.
Bienvenue dans The Big Shift, et je te laisse te présenter si tu le souhaites pour les auditeurs.
Donc, je m'appelle Audrey Boilly, moi je suis ingénieure de formation et donc journaliste scientifique. J'ai travaillé plusieurs années au magazine Sciences et Avenir notamment. Et puis en fait, vraiment, mon cœur de métier, c'est la vulgarisation scientifique, et j'ai eu un déclic sur les questions environnementales. Alors, ça fait longtemps que je travaille je touchais à tous les aspects de la science, et donc évidemment aux questions environnementales, mais c'est un peu une preuve que les chiffres ne suffisent pas, parce que j'étais abreuvée effectivement de chiffres, d'études, de tribunes de scientifiques qui alertaient, etc. Et évidemment, je me sentais concernée par ces sujets, mais finalement, le déclic est arrivé plus tard, en fin 2018, début 2019. Et à ce moment-là, en fait, notamment par la lecture du rapport Meadows, dont on va, j'imagine, parler.
Oh oui.
Ce qui fait que j'ai décidé de m'engager vraiment sur ces sujets, de quitter mon poste en rédaction et de vraiment me consacrer en tant que journaliste sur ce sujet des limites planétaires.
Tu étais complètement indépendante quand tu as créé ce podcast ?
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, j'ai quitté mon job et je me suis lancée. C'était mon premier projet, c'était le podcast. Maintenant, il a donné naissance à un livre éponyme, qui s'appelle aussi donc, Dernière Limite. Et l'idée, c'est de continuer à développer plein de supports, de plein de formes, pour toucher un maximum de public autour de ce message des limites planétaires, qui est pour moi, en fait, qui m'a permis de prendre conscience de l'ampleur du problème et donc de la nécessité de se mettre à agir. Et je me dis, si moi, ça a eu cet effet sur moi, potentiellement, ça pourrait avoir le même effet sur d'autres personnes. Donc, et en tant que journaliste scientifique, je pense que je suis plutôt pas mal placée pour justement essayer de jouer ce rôle de passeur autour de ce message, de dire il n'y a pas que le climat. Bien sûr, c'est en soi une menace existentielle pour l'humanité, mais d'avoir une vision systémique, globale de l'ensemble des enjeux écologiques, en fait, ça donne une dimension tout autre. Et on voit qu'il faut repenser complètement finalement notre modèle et pas juste, c'est pas juste une problématique technologique, parce qu'on peut se dire, quand on pense qu'au climat, si on reste dans une optique finalement un peu croissance verte, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est la direction finalement qu'on aborde, c'est de se dire voilà, on ne change rien à notre mode de vie, et finalement les ingénieurs vont se charger de décarboner notre énergie, ça suffit pour régler le problème du climat, mais sauf qu'on dépasse, on va en parler, 6 limites planétaires sur 9, donc on voit bien que c'est pas le seul problème et qu'il faut vraiment changer tout le système, voilà. Ouais.
Alors avant de commencer, on a commencé un petit exercice sur un épisode qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, donc là c'est le jour de l'enregistrement, mais on a commencé un petit exercice avec Salomé Sake il y a 2 semaines, qui s'est prêté au jeu et qui a bien aimé. Est-ce que tu vas bien aimer ? Tu me diras. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est ton opinion de base sur certains sujets en répondant à des questions de façon assez rapide et avec le moins de mots possible. Donc j'ai préparé 7-8 questions pour que tu puisses me dire oui ou non en fonction de ce que tu imagines être le plus vrai. Est-ce que tu penses que l'humanité a déjà dépassé le point de non-retour en termes de limites planétaires?
Alors, je peux répondre oui, dans le sens où, par exemple, pour le climat, on ne reviendra pas en arrière à l'échelle de plusieurs siècles, donc à l'échelle des vies humaines. Donc oui, dans ce cadre-là, oui, tout à fait. Il n'y a pas de retour en arrière.
Est-ce que le changement climatique est la limite planétaire la plus critique actuellement?
Les deux plus critiques, ce sont le climat et la biodiversité, qui ont un impact très fort sur l'ensemble des autres frontières planétaires. Donc on va le voir, ce modèle-là, il permet à la fois d'identifier les problématiques, les enjeux écologiques, mais aussi de montrer le lien entre elles, le lien très fort entre elles et le fait qu'elles peuvent s'entraîner l'une l'autre dans une sorte d'effet domino. Et donc les plus influentes, entre guillemets, c'est le climat et la biodiversité, qui en plus ont coévolué depuis 4 milliards d'années. Et donc voilà, finalement, contribue à définir ce qu'on appelle le système Terre, enfin de l'état d'équilibre dans lequel on est aujourd'hui.
Est-ce que tu penses que les technologies vertes peuvent nous sauver?
Il faut répondre par oui, par non, je dirais non, très clairement, puisque, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est un système entier qu'il faut changer, puisqu'on dépasse l'ensemble des limites physiques un grand nombre de limites physiques de la planète, et on s'approche d'autres, notamment, et on en parlera, j'imagine, des limites d'extractivité, notamment des métaux dont on a besoin pour ces technologies, et puis que les technologies entraînent un effet rebond. Donc ça veut dire que si on est plus efficace, par exemple, et qu'on consomme moins d'énergie grâce à une technologie, eh bien l'usage augmente, hein, c'est ce que nous montre l'histoire des techniques et des technologies. Et donc, du coup, on se retrouve à finalement consommer plus d'énergie, plus de métaux, plus d'eau, plus, etc. Donc, non, ça ne nous emmène pas du tout dans la bonne direction.
Faut-il faire lire le rapport Meadows aux lycéens?
Ah oui, complètement. En plus, c'est vraiment, et ça, j'encourage tous les auditeurs à lire ce rapport, parce qu'on peut se dire, oh là là, un rapport scientifique, c'est fait pour les scientifiques. Et là, il a vraiment été écrit pour le grand public. D'ailleurs, ça a été un best-seller, plus de 10 millions d'exemplaires, traduit en 36 langues.
Mais
Vraiment,
sur un
voilà.
niveau biblique, quoi.
Oui, presque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Et donc, je recommande vivement la lecture du rapport Meadows à partir du lycée.
L'agriculture biologique ou l'agroécologie peut-elle nourrir toute la planète?
Oui, l'agroécologie peut nourrir toute la planète. Aujourd'hui, c'est dans les rapports de la FAO. C'est absolument prouvé par les études. Et ça, évidemment, ce n'est pas l'agroécologie seule. Il faut changer aussi les usages, c'est-à-dire réduire le gaspillage alimentaire et manger beaucoup, beaucoup moins de viande. Mais si on fait tout ça, effectivement, on peut nourrir 10 milliards d'humains en 2050.
Est-ce que tu es confiante dans les 10 prochaines années?
J'essaie
10,
de ne pas
parce
me
que c'est du
poser.
moyen terme, c'est très
Oui.
très compliqué comme question, justement.
En fait, après, comme beaucoup de gens et comme la majorité des gens, j'imagine, je veux dire, m'être posé cette question en boucle, et finalement, cette question, elle pèse énormément et elle prend énormément d'énergie, elle est vraiment très, très anxiogène. J'essaye de ne plus me la poser. En fait, je pense que la question clé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et se mettre dans l'action finalement. J'ai réalisé que c'était pas que finalement c'était pas la question clé parce qu'on n'avait pas la réponse et parce qu'on pouvait justement rester bloqué et perdre beaucoup d'énergie sur cette question. Que la question clé, c'est surtout qu'est-ce que nous on peut faire individuellement et collectivement pour avancer.
La même chose pour les 30 prochaines années, alors.
Oui, tout à fait.
Écoute, merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant parce que j'essaye souvent de dire dans le podcast que on essaye dans The Big Shift de travailler sur des silos de la transition écologique. En fait, on a 130 épisodes. Et toi, ça doit te paraître énorme parce que du coup, en 13, tu avais décidé que tu avais fait le tour. Mais du coup, on a
En
130
première
épisodes.
approche, hein.
Non, mais c'est vrai que du coup, moi, il y a plusieurs moments où je me suis dit, bah, attends, là, c'est bon, j'en ai déjà parlé. Puis après, tu rouvres une boîte de Pandore et tu te rends compte qu'il y a des dizaines d'épisodes qui te manquent à ton podcast, notamment sur les limites planétaires. Mais voilà, du coup, j'avais décidé que dans The Big Shift, on regardait par des lorgnettes d'experts des sujets, des silos très spécifiques de la transition écologique, alors que ce soit sur la partie climatique, biodiversité, alimentation, économie, politique, tout ce que tu veux. Et que du coup, j'aimerais bien qu'il y ait des épisodes qui fassent le lien entre ces différents silos de temps en temps, parce que la transition écologique est une transition qui est systémique et qui ne peut pas juste se résumer à un point. Et on en parlait rapidement sur la partie climatique et on va en reparler après. Mais voilà, et du coup, je trouve ça très très cool de faire cet épisode avec toi, parce que j'ai l'impression qu'on est sur un de ces épisodes qui va faire des petits sauts de puce entre les différents silos et qui va expliquer bah, ce qui se passe, en fait, et pourquoi est-ce que le climat n'est pas forcément le seul impactant quand on parle de transition écologique ou quand on parle de chute de la biodiversité, etc. Et donc, voilà, très content de faire cet épisode pour pouvoir faire ce lien entre les silos.
Et je pense que oui, les deux sont nécessaires. Hein. C'est la vision systémique, elle est absolument indispensable. Et après, pour comprendre chacun des sujets, parce que moi, dans mes 13 épisodes du podcast Dernière Limite, en fait, effectivement, je ne fais qu'ouvrir des portes. Mais pour vraiment comprendre les sujets, après, il faut écouter les objectifs.
Voilà. Voilà, donc la porte d'entrée, c'est Dernière Limite, produit par Audrey Boilly. Et puis la suite, c'est The Big Shift. D'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a trop d'épisodes sur The Big Shift, 130, je peux comprendre que ce soit compliqué. Bah, j'ai créé un site web sur lequel vous avez des catégories et vous avez des playlists de lecture en fonction de vos centres d'intérêt. Et donc, si vous voulez commencer à vous imprégner de la transition écologique sur la partie énergétique, et bah, vous avez une dizaine d'épisodes là-dessus avec une liste et qui vous explique à chaque fois sur quel épisode partir si vous avez besoin. Si vous posez plein de questions sur le nucléaire, bah, on a une autre journaliste scientifique qui est passée dans le podcast, c'est Anne-Claire Poirier, qui a d'ailleurs un avis très complémentaire au tien. Sur la question de pourquoi est-ce qu'on doit faire profiter aux gens de vos connaissances. Et donc voilà, on a beaucoup, beaucoup de playlists de lecture. Et si jamais vous ne savez pas par où démarrer, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn et me dire bah, voilà, j'ai envie de commencer le podcast, mais je ne sais pas quoi faire. Et ben, vous prenez 2-3 secondes et vous me dites je suis intéressé par tel et tel sujet. Et moi, je vous renvoie les 5 épisodes qui vont vous intéresser. Voilà pour la deuxième intermède déjà. Ça fait 10 minutes qu'on enregistre. Il y a déjà eu deux intermèdes de pub sur le podcast. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce podcast Dernière Limite ?
Moi, c'est vraiment la prise de conscience autour du fait que, voilà, on n'était pas, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'était pas uniquement sur un problème de climat, et ce qui change complètement la perspective. Et ça, en fait, j'en ai pris conscience en lisant le rapport Meadows, principalement. Alors ça, c'est pour la prise de conscience sur les limites planétaires. Après, il y a aussi un déclic personnel, émotionnel. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a l'impression qu'on est des êtres rationnels, qu'on est mu par, finalement, des données, des faits, etc. Et en fait, on voit bien que ça ne suffit pas. Moi, ce qui m'a aussi mis dans l'action, c'était concomitant avec l'engagement de Greta Thunberg, son discours à l'ONU, etc. Et en fait, il se trouve que j'ai deux filles qui ont 11 et 13 ans. Et je me suis dit, finalement, dans quelques années, elles pourront me dire ce que dit Greta aujourd'hui et me dire que je savais que je n'ai rien fait. Et j'avoue que ça m'a vraiment glacé le sang. Et je me suis dit, c'est pas, enfin, je peux pas. Et ce lien, enfin, c'est pour ça que je comprends pas que tous les parents soient pas dans la rue pour ces questions-là, parce que en fait, ben, nos enfants, c'est le lien avec ce qu'on appelle génération future. En fait, elles sont déjà là et elles vont vivre de plein fouet l'avenir chaotique qu'on est en train de préparer. Et donc, évidemment, ce choc émotionnel a contribué aussi à me mettre dans l'action. Mais là, en tout cas, il y a un choc intellectuel qui est la lecture du rapport Meadows et la prise de conscience de cette question systémique des limites planétaires. Et puis, le choc émotionnel vis-à-vis de par rapport à mes enfants.
Alors, tu disais, tout part du rapport Meadows. J'ai écouté le premier épisode du podcast Dernière Limite sur les 13. C'est avec Denis Meadows. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Parce que c'est lui qui l'a écrit, enfin, avec son équipe, mais en 1972, et toi, tu l'as eu en 2022 pour les 50 ans de son rapport. Comment c'était ?
Oui, l'objectif, c'était vraiment, enfin, moi, c'est mon point de départ, et donc c'est le point de départ du podcast, et c'est symboliquement le fait de le lancer au moment des 50 ans, voilà, ça m'a paru quelque chose d'assez évident. Et la première personne que j'ai voulu interviewer, c'est évidemment Denis Meadows, qui
il
parle
a dit
très
oui,
peu.
C'est ça qui est fou.
Voilà. Ouais. Il parle très peu, même si on le retrouve voilà, aussi dans d'autres. Dans Sismic, je crois qu'il a
il
fait
est passé,
un épisode.
Il est passé chez Julien, oui.
Voilà.
Bon, Sismic.
Mais oui, pour moi, c'était un grand moment, parce que déjà, c'est un grand monsieur, évidemment, qui a fait partie des premiers à lancer l'alerte il y a 50 ans. Qui a tenu bon pendant ces 50 années où, en fait, alors on parle souvent d'inaction climatique, d'inaction écologique. En fait, on n'est pas du tout face à une inaction, on est face à une accélération exponentielle du problème qu'on appelle la grande accélération. Et donc, qui a tenu bon en tant que lanceur d'alerte, qui est toujours sur pied à 80 ans, combatif. Et c'est vrai, c'est assez admirable. Et puis, évidemment, ça m'a touchée personnellement parce que voilà, il a coordonné cette équipe qui a écrit ce rapport qui a, en toute franchise, bouleversé ma vie. Donc oui, personnellement, c'était quelque chose de très fort.
Qu'est-ce qu'il raconte dans cet épisode, alors, du coup, 50 ans après? Est-ce qu'il dit la même chose ou est-ce que, est-ce qu'il a un avis qui a changé? Est-ce que, tu dis, il se bat toujours avec la même intensité? Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à garder cette intensité et cette espérance? Parce que tu dis, enfin, tu me disais tout à l'heure, j'essaye de ne pas regarder à 10 ans devant moi, j'essaye de ne pas regarder à 30 ans devant moi. Un Denis Meadows, s'il ne fait pas ça, évidemment, il s'écroule, quoi.
Oui, enfin, je sais pas, justement, j'ai eu un peu cette sensation-là que, enfin, son discours s'est adapté avec le temps au moment où le rapport est sorti. D'ailleurs, c'était, alors ça, c'est une anecdote qui m'a vraiment fait rire. Bon, il vaut mieux en rire, mais au moment où ils ont sorti le rapport, il a dit à son équipe juste avant, bon, on va dédier une semaine à répondre aux questions des médias, etc., sur le sujet, avant de passer à notre prochain sujet d'étude. Et il me dit, bah finalement, j'y ai passé toute ma vie.
Ah oui, c'est
donc,
ça.
Donc voilà, pour lui...
Ça aurait été encore pire de dire, bah, il n'y a pas eu de question, il n'y a personne qui a vu le rapport, oui, tu vois, parce vrai, que c'était un peu ça qu'ils étaient passés aussi à la base.
C'est vrai, c'est vrai. Non, non, ça a été un électrochoc à l'époque. On en a parlé dans les médias, Reagan en a parlé à l'époque dans les années 80, enfin, Valéry Giscard d'Estaing en France, enfin voilà, ça a été vraiment... non, non, un électrochoc, mais qui a été ensuite, effectivement, qui a disparu sous le tapis, parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse, parce qu'en fait, le rapport Meadows, on va peut-être le voir tout à l'heure, mais en fait, nous dit qu'on ne peut pas poursuivre la croissance économique, parce que sinon, on va dépasser les limites planétaires, et que finalement, le système va s'effondrer. Et donc, comme il n'y avait pas de bonne réponse à ça, finalement, la meilleure stratégie, quelque part, c'était d'enterrer le rapport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on commence à en reparler un peu, finalement, moi, je l'ai découvert très récemment. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Alors que c'était vraiment largement dans les médias de l'époque. Donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question.
Non, c'était. Je trouve ça intéressant. Moi, j'en ai entendu parler au moment où je préparais mon épisode avec Timothée Parik sur la décroissance. Et en fait, j'ai trouvé des éléments sur des états de post-croissance, un terme qui commence à faire un peu son petit chemin. Et du coup, j'avais découvert la théorie de Kate Raworth, donc l'économie du donut, où on reste à l'intérieur des limites planétaires, mais en assouvissant les besoins principaux des êtres humains. Donc, naviguer entre le milieu du donut et puis l'extérieur qu'on n'a pas le droit d'aller toucher.
Oui, oui, et effectivement, ça devrait, enfin moi j'en parle tout le temps parce que ça devrait être l'objectif de nos sociétés, au lieu de courir après la croissance économique qui aujourd'hui n'apporte plus bien-être, mais j'imagine que Timothée Parik en a parlé extensivement.
C'était il y a 2 ans, tu sais.
Ah d'accord, ok. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, allez-y.
C'est l'épisode 16, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais voilà,
oui,
allez-y.
Impressionnant. Et donc, effectivement, l'objectif de nos sociétés devrait être d'avoir un mode de vie durable, donc qui respecte l'ensemble des limites planétaires, mais qui respecte aussi un plancher social, l'ensemble des droits humains, évidemment, un droit à l'alimentation, à l'accès à l'eau, mais aussi à la santé, à l'éducation, à la démocratie, etc. Et donc, c'est ce fameux donut, et ça devrait être finalement ça, la direction vers laquelle tendent nos sociétés. Et on voit bien que ce n'est pas du tout le cas et qu'aujourd'hui, on est encore sur une sorte de fantasme autour duquel la croissance économique, en tout cas la croissance du PIB, devrait nous apporter du bien-être. Or, ce que nous disent les études aujourd'hui, c'est que c'est complètement décorrélé dans les pays développés comme les nôtres, même si le PIB croît, finalement, la sensation de bien-être ne croît plus. Et même, on est face à... voilà, des baisses d'espérance de vie aujourd'hui aux États-Unis. Voilà, c'est plus du tout corrélé, donc c'est plus du tout le bon objectif. Et ça y est, je me rappelle de ta question tout à l'heure. Qu'est-ce que dit Denis Meadows?
Ouais.
Et donc, ce qu'il dit, un peu comme beaucoup de climatologues aujourd'hui, c'est un peu sa traduction de chaque dixième de degré compte. C'est-à-dire que oui, on a dépassé aujourd'hui un certain nombre de limites. En fait, quand il parlait il y a 50 ans, ce qu'il nous disait, c'est... il est encore temps d'agir. On vous alerte à l'avance. Et donc, c'est super. Comme ça, on peut prendre les mesures nécessaires. Évidemment, il y a un deuxième opus du rapport qui est publié en 92 qui s'appelle Beyond Limits. Donc, on avait déjà dépassé un certain nombre de limites. Mais voilà, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire mieux, pour agir, en fait. Ça ne sert à rien de se décourager. Et donc, quelque part... il faut prendre les choses comme elles sont, les faits tels qu'ils sont, et partir d'aujourd'hui, et se dire tout ce qu'on pourra faire aujourd'hui amortira les chocs à venir, parce qu'évidemment, on va vivre...
Que ce soit réversible ou irréversible pour certains.
Exactement.
Bon, alors, 20 minutes dans l'épisode, entamons le sujet principal, les limites planétaires. Donc, on entend beaucoup parler de la limite climatique, qui est une des limites planétaires. Il y en a combien ? T'as enregistré 13 épisodes, est-ce qu'il y a 13 limites planétaires ?
Non, il y en a 9. Dont 6 ont été dépassées. Alors, on dit plutôt frontières planétaires. Moi, je parle de limites planétaires parce que j'englobe aussi les limites physiques d'extraction des métaux, du phosphore, du sable,
des
énergies fossiles, dont on est toujours ultra dépendant, malheureusement. Mais sinon, ce modèle-là qui a été établi par des chercheurs en 2009 du Stockholm Resilience Center, on parle plutôt de frontières parce que cette frontière, on peut la dépasser alors que une limite, c'est une limite d'extraction. Quand il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de cuivre. Enfin, en tout cas, quand on n'est plus capable d'aller le chercher, c'est terminé. Voilà. Il y en a 9. Moi, j'ai fait
9 connus ou 9, on est sûr quasiment qu'aujourd'hui, si on arrive à respecter ces 9-là, tout ira bien. Ou est-ce que c'est possible qu'on se dise, en fait, il y en a 12 ou il y en a 13, j'en sais rien.
Non, c'est un modèle qui est évolutif, qui est très jeune d'ailleurs, même s'il est vraiment très reconnu par la communauté scientifique, énormément repris et d'ailleurs cité dans le dernier rapport du GIEC.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est un modèle qui est jeune et donc la science progresse et ses frontières, déjà effectivement le nombre de frontières planétaires est discuté. Par exemple, il y a un certain nombre de chercheurs qui... aimerait qu'il y en ait une dixième qui sont les sols. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait un épisode sur ce sujet, mais évidemment...
Sur les sols en spécifique, non.
Parce que c'est un sujet absolument majeur. Alors, du coup, je suis déjà en digression, je n'ai même pas parlé des neufs, je parle de la dixième, mais d'une potentielle dixième, c'est quand même une couche très fine, à peine un mètre d'épaisseur, dont dépend toute la vie terrestre, et qui est en situation de dégradation ultra rapide. Pour dire juste un mot là-dessus, on a déjà perdu l'équivalent en terres agricoles capable de nourrir l'Europe parce qu'on détruit littéralement la fertilité des sols qui se désertifie. C'est 3/4 des sols qui sont en voie de désertification dans le monde.
Alors, on enregistre tout à l'heure un épisode sur le monde agricole et sur la transformation nécessaire. Il y a le salon de l'agriculture en ce moment et du coup, on va avoir un super épisode tout à l'heure. Et effectivement, en le préparant, je voyais, c'est... 1 centimètre sur l'équivalent de la surface de la Belgique qu'on perd chaque année liée à l'érosion des sols parce qu'ils sont plus capables de soutenir en fait la méthode de production qu'on a aujourd'hui.
Exactement, le labour intensif en fait, et évidemment on tue aussi la vie des sols avec les pesticides, donc oui, c'est un sujet majeur et donc il pourrait peut-être un jour être une dixième frontière planétaire. Et donc parmi les 9, pour rester sur le modèle actuel, l'idée des chercheurs, c'était d'essayer de déterminer quels sont les équilibres biophysiques, les équilibres naturels qui sont vraiment structurants du système Terre dans lequel nous vivons actuellement. Pour le dire rapidement, en fait, ce système Terre, mais Nathanaël en a un petit peu parlé, c'est l'équilibre qu'on vit depuis 11 700 ans à peu près de l'Holocène. L'Holocène, donc, qui est en fait la Terre vit une alternance d'air interglaciaire et glaciaire. Et là, on est dans une ère interglaciaire qui s'appelle l'Holocène avec des conditions extrêmement stable. Et c'est ce qui a permis le développement des sociétés humaines. C'est la concomitance avec le développement de l'agriculture il y a environ entre 11 000 et 9 000 ans, suivant les régions. Et puis évidemment, qui a donné lieu à la sédentarisation et finalement la création des sociétés humaines telles qu'on les connaît et la possibilité de vivre à 8 milliards d'humains. Nous dépendons finalement de cet état du système Terre. Et l'objectif des chercheurs, c'était de déterminer quels étaient les équilibres naturels structurants pour maintenir ce système et quelles étaient les frontières à ne pas dépasser pour ne pas sortir de l'Holocène sortir de cet unique état dans lequel on sait pouvoir maintenir nos sociétés. Donc du coup, ça, c'est synonyme de l'habitabilité de la Terre. Si on sort de ces frontières, en fait, on met en grave danger en fait l'habitabilité de notre planète.
Ok. Et est-ce qu'il y a des frontières qu'on a dépassées et sur lesquelles on se dit, ok, on peut revenir sous un seuil qui serait acceptable ? Est-ce qu'on l'a déjà fait ? Est-ce qu'on arrive à naviguer autour de ces frontières ou est-ce qu'une fois qu'elles sont dépassées, c'est terminé ?
Alors, ça dépend vraiment des frontières. En plus, il y en a qui ont une influence globale, d'autres locales. Voilà. Je vais prendre l'exemple de la couche d'ozone qui est souvent pris, donc qui fait partie des 9 frontières planétaires. Celle-ci, on a failli la dépasser dans les années 80. Et grâce à un accord international, le protocole de Montréal en 1987, on a retiré du commerce les gaz,
CFC,
voilà, des gaz fluorés qui détruisaient cette couche d'ozone. Et donc, elle est en meilleur état aujourd'hui qu'elle n'était dans les années 80. Donc oui, c'est possible d'améliorer la situation.
Et c'est fou, parce que c'est sur l'espace de 30-40 ans, quoi.
Oui, tout à fait. Après, il n'y a pas de miracle pour d'autres, hein, où il faut plutôt enrayer finalement le dépassement, comme le climat, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, où le CO2 ne fait que s'accumuler dans l'atmosphère et met des siècles à être évacué, voilà, parce que la molécule est très stable. De la même façon, pour la biodiversité, eh bien, il n'y a pas de baguette magique qui va faire réapparaître les espèces qui ont disparu. Mais par contre, les populations elles-mêmes pourraient reprendre de la vigueur si on avait effectivement dédié des aires protégées et qu'on permettait à la biodiversité de se régénérer. Donc voilà, tout ça est variable selon les frontières.
Quelle est la frontière planétaire ou la limite, parce que du coup il peut y avoir les deux, qui est la plus en danger actuellement à l'heure où on parle?
Alors, les deux qui sont le plus dans le rouge,
ouais,
ce sont la biodiversité déjà, au-delà du climat. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette vision systémique, parce que se focaliser sur le climat, c'est passer à côté du fait qu'on est, ce que disent les chercheurs déjà, on est entré dans la sixième extinction de masse. Donc, on est en train d'exterminer le vivant sur cette planète. Je ne vois pas bien ce qu'il peut y avoir de plus important finalement que de préserver le vivant, ce miracle de la vie sur Terre. Et sachant que toutes nos sociétés sont assises et dépendantes de ces ressources naturelles aussi. On consomme chaque année 70 milliards de tonnes de ressources naturelles. Donc on a l'impression que finalement dans notre monde urbain, numérisé, on est un peu hors sol, on s'est un peu extrait de la nature. C'est évidemment complètement l'inverse. Et un chiffre qui m'a beaucoup marqué et que je cite quand je vais en entreprise, c'est parce qu'en fait on fait malheureusement et de façon absolument absurde passer l'économie avant la biodiversité par exemple. C'est au moins la moitié du PIB, ça c'est un chiffre qui est extrait d'un rapport qui a été réalisé pour Davos en 2020. Au moins la moitié du PIB dépend directement de la biodiversité. Alors après, on peut se dire, mais c'est même 100% parce que finalement, on ne pourrait même pas survivre parce qu'on dépend de la nourriture qui est fournie par cet écosystème. Donc, c'est un peu absurde. Même ce calcul est un peu absurde.
C'était encore pire que ça. Nous, alors à Noël, on a enregistré un épisode avec Florent Courreau qui, travaille sur les comptabilités socio-environnementales. L'épisode est bien plus intéressant que le titre peut paraître parce que comptabilité, on peut souvent se dire. Et donc, ce qu'il m'expliquait, c'est que on appelle ça les services écosystémiques rendus par la nature. Donc, tout ce qu'en fait, on prélève sans vraiment le payer, quoi. On évaluait ça, donc, selon les études, à 1,5 fois la hauteur du PIB. Donc, ça veut dire que pour chaque euro de valeur ajoutée qu'on arrive à produire avec nos outils, en fait, on utilise 1,5 euro de nature en termes de services écosystémiques au niveau mondial. C'est hallucinant.
Voilà, donc ça, il faut absolument que on en ait conscience. Mais voilà, tout ça pour dire que la crise, ça donne l'impression que ça va passer demain, donc la catastrophe en termes de biodiversité, en fait, on y est déjà jusqu'au cou. On a déjà perdu 2/3 des populations de vertébrés depuis 50 ans. C'est un effondrement drastique. Donc ça, c'est la première...
On a parlé de la pêche, en plus, ces derniers temps.
Tout à fait. La pêche, c'est... Ça fait partie vraiment des choses qui m'ont marqué dans le podcast. J'ai interviewé Philippe Curie, qui est océanographe et un expert de ce qu'on appelle les pêches écosystémiques, donc qui permettrait de respecter la ressource halieutique et l'équilibre du vivant dans l'océan, tout en pêchant, continuant une activité de pêche. Et donc, c'est vrai que je n'avais pas conscience, finalement, des chiffres abyssaux, en fait, d'exploitation des océans. Aujourd'hui, c'est 90% des espèces de poissons qui sont soit exploitées à leur maximum, soit surexploitées. Et donc, en quelques décennies, c'est 90% des populations de grands poissons type cabillaud, thon, etc., qui se sont effondrées. Donc, on est vraiment... Et malgré l'augmentation des flottes de pêche et l'amélioration des technologies, etc., on n'arrive plus à augmenter le volume de pêche depuis les années 90.
Ouais.
Parce qu'en fait, les poissons n'ont plus le temps de se reproduire, tout simplement. Donc, c'est... effectivement...
Cette semaine, il y a la loi pour la restauration de la nature qui a été votée, limite, mais qui a été votée au Parlement européen.
faut prendre toutes les bonnes nouvelles.
Ouais, il faut prendre toutes les bonnes nouvelles. Est-ce que du coup, ça peut être quelque chose qui permet de rétablir, parce que du coup, on parle notamment dans cette loi de restauration des écosystèmes marins en Europe, donc sur la côte atlantique, etc. Est-ce que c'est vraiment des lois qui peuvent aider à revenir sous un seuil de frontières planétaires qu'on a déjà dépassé là-dessus?
Alors là-dessus, effectivement, les populations de poissons peuvent se... On a plein d'exemples comme ça étudiés scientifiquement de zones où on décrète des aires marines protégées et où, du coup, les populations reprennent
vite,
voilà, une grande vigueur. Donc, on voit que c'est tout à fait possible, même si, en fait, pour que ça soit possible, il ne faut pas avoir passé certains points de bascule. Et ça, Philippe Curie en parle très bien. Il cite un exemple en Namibie où en fait on a surpêché les sardines. Il y avait des dizaines de millions de tonnes de sardines pêchées chaque année. Et la surexploitation en fait a vidé cette niche écologique et à la place, ce sont des méduses qui ont pris voilà, la place dans cette niche écologique. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de millions de tonnes de méduses qui sont produites finalement par cet écosystème sans qu'il y ait de retour en arrière. En fait, c'est une sorte d'effet cliquet. Donc c'est voilà, il faut juste éviter de passer ces points de bascule. Mais effectivement, la protection, en tout cas la protection à un haut niveau, que ça soit terrestre ou marine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc dans tous les cas, il faut absolument, on ne s'en sortira pas sans réglementation, sans loi et sans réglementation. Faut pas croire à finalement l'autorégulation. Voilà, des citoyens, des entreprises, etc. Mais après, c'est la façon dont c'est réellement appliqué dans les différents pays. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement suivre de très, très près.
Si on enlève Denis Meadows, qui évidemment était un banger, et Philippe Curie, avec qui dont on vient de discuter, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a vraiment marqué, des choses que tu as apprises, où tu t'es dit, ah oui, là, il y a... Enfin, tu m'as dit que tout ce podcast était un peu un bouleversement, notamment dû au rapport Meadows, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as apprises qui t'ont vraiment marqué là-dedans?
Alors, dans les points qui sont quand même, qui sont quand même assez, je dirais, anxiogènes et qui amènent une réaction, c'est l'intrication, en fait, entre la question des métaux et la question de l'énergie. Quand on pense à la transition énergétique, évidemment, il faut beaucoup plus de métaux et c'est absolument nécessaire pour le climat. Et donc, ces métaux, en fait, alors je ne sais pas si tu as fait un épisode dessus, mais ils sont de moins en moins concentrés parce qu'on a été chercher les sources les plus concentrées. Et donc, il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher ces métaux. Donc, c'est aujourd'hui déjà 10% de l'énergie primaire qui est consommée pour extraire jusqu'au raffinage des métaux. Donc, c'est absolument énorme et ça va augmenter. Et de l'autre côté, qu'on fasse la transition ou non, mais évidemment, elle est souhaitable, eh bien, on va devoir consommer plus de métaux pour produire de l'énergie. Et donc, finalement, on est dans un cercle vicieux. Exactement. Donc, qui met en exergue le fait que la seule option, finalement, évidemment, il faut décarboner, mais la seule option, c'est la sobriété, c'est-à-dire de consommer moins d'énergie, moins de métaux. De toute façon, on va vivre dans un monde avec moins de ressources disponibles. Donc, c'est vrai, pardon. Pardon pour ce bruit parasite. Donc, on va vivre dans un monde avec moins de métaux, moins d'énergie disponible, moins d'eau disponible aussi, à cause du réchauffement climatique, du fait qu'on a coupé massivement les forêts, etc. Et donc, dans ce monde avec moins de ressources disponibles, il y a deux leviers principaux qui sont évidemment consommer moins, donc la sobriété, et puis partager mieux. Qui est vraiment la base, et de se dire voilà, c'est ce peu de ressources, il faut les partager équitablement et faire des choix, se dire c'est pas tout réduire de façon équitable, mais de se dire aujourd'hui typiquement des entreprises comme Coca-Cola, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type de produit aujourd'hui pour produire une bouteille de Coca de 50 centilitres? Il faut 35 litres d'eau. Et Coca vient de recevoir à nouveau pour la sixième année consécutive le prix du plus gros pollueur plastique au niveau mondial. En plus, c'est vraiment un facteur d'obésité, etc. Enfin bon, voilà, il va falloir faire des choix drastiques de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on arrête, quoi. Voilà.
Bon, c'est encore la différence entre liberté et la liberté de soi et de faire ce qu'on veut, et la liberté de vivre en société et de pouvoir respecter la liberté des autres.
Mais c'est aussi une question de la liberté de faire des choix collectifs sur ces questions. Et la première liberté, c'est d'être correctement informé sur ces questions-là. Et merci d'y contribuer. Et ensuite, d'avoir des espaces où ces choix collectifs peuvent être faits. C'est ça, la vraie liberté. Et aujourd'hui, elle est quand même extrêmement limitée.
Tu vois, avec tout ce qu'on vient de dire, je me demande pourquoi est-ce qu'on parle que du climat dans les limites planétaires aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est la limite qu'on évoque le plus facilement ? Alors qu'en plus, elle fait quand même beaucoup de débats aujourd'hui. Il reste beaucoup de climato-sceptiques, il reste beaucoup de débats autour de la question de savoir si même le climat se réchauffe ou si même c'est anthropique. Pourquoi est-ce que du coup c'est la seule dont on entend parler majoritairement ? Parce que bon, on entend de plus en plus parler de biodiversité aussi, il y en a d'autres qu'on n'évoque quasiment jamais. La question des ressources, elle est encore limitée, surtout sur la partie métaux.
J'avoue que, enfin, je ne suis pas historienne et je n'ai pas la réponse à cette question. Je me la pose aussi, mais je n'ai pas eu le temps de me pencher encore sur cette question. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu vraiment un basculement parce que les premiers sommets internationaux, les sommets de la Terre, qui ont commencé en 72, le sommet de Stockholm en 72, on connaît plus le sommet de Rio en 92, et qui a donné naissance au GIEC d'ailleurs, en fait, intégrer l'ensemble des enjeux écologiques. Donc, on avait à ce moment-là une vision systémique. Alors, je ne dis pas que ça a renversé la table, hein, pas du tout. mais il y avait en tout cas cette vision globale des enjeux écologiques et finalement qui a été perdue au profit d'une focalisation sur le climat. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet absolument majeur, mais cette vision systémique, elle est vraiment nécessaire pour ne pas laisser la porte ouverte à justement des fausses solutions parce que quelque part, le pire, c'est d'investir dans des fausses solutions, c'est de miser uniquement sur la technologie qui nous accélère le fait d'aller dans le mur. L'archétype de ça, c'est par exemple l'IA, qui est vraiment une catastrophe, un accélérateur de la catastrophe écologique quand on pense à la consommation énergétique, mais quand on pense aussi à la question de l'eau, par exemple. Et ça, voilà, c'est ce qui fait qu'il ne faut pas avoir justement des œillères et ne penser qu'à un des enjeux écologiques. L'eau, c'est un enjeu absolument majeur. On voit qu'on va avoir moins d'eau disponible, qu'il y a une question de partage de l'eau. Et il faut 32 litres pour fabriquer une puce électronique. Je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, on a produit 1,1 milliard de puces. Et la production de ces puces va exploser avec l'IA pour entraîner les IA, en fait. Et donc, il y a un moment où il va se poser le choix de est-ce qu'on boit ou est-ce que, finalement, on développe l'IA, quoi. D'ailleurs, ce choix s'est posé ponctuellement à Taïwan en 2021, où l'île vivait une sécheresse importante. Et donc, le gouvernement a décidé de fermer la principale usine de fabrication de puces parce que c'était boire ou produire des puces électroniques.
Je crois que c'était d'électroniques, ouais.
Exactement.
En fait, je pense qu'on a évoqué pas mal de... Il y a des limites qu'on n'a pas du tout évoquées, d'ailleurs. Voilà.
Oui. Alors, parce que tu me disais, lesquelles sont les plus dépassées ? Il y en a deux autres. On ne va pas toutes les développer, mais...
Bon, l'idée, c'est pas de les faire une par une. Mais voilà. D'ailleurs, on mettra dans la description les 9 limites, si vous voulez y revenir en écoutant l'épisode.
Et puis, c'est ce que je développe dans le podcast. Mais donc, les deux autres qui sont vraiment en alerte rouge, c'est la pollution chimique. Donc, la pollution chimique, c'est toutes les molécules qui n'existent pas dans la nature, qui sont produites par l'homme. Donc, évidemment, on pense au plastique. Aujourd'hui, c'est à peu près 90% de la surface des océans qui est polluée au plastique. Mais aussi les fameux polluants éternels, les PFAS ou PFAS, qui font qu'aujourd'hui, l'eau de pluie n'est plus potable, ce qui est quand même... Voilà, fait partie de mes chocs personnels
d'apprendre que
oui. Ouais, aujourd'hui les seuils sont dépassés en PFAS, ouais. Donc c'est quand même assez dingue et qu'on a réussi finalement à polluer presque l'intégralité de la planète. Récemment, il y a quelques mois, des chercheurs ont identifié des microplastiques dans des nuages au-dessus du mont Fuji. Voilà, on en a sur les glaces de l'Himalaya, on en retrouve dans la fosse des Mariannes, la plus profonde du monde. Voilà, on a réussi
J'ai pas ça en tête. Voilà. Pouvoir boire l'eau de pluie. J'avais entendu que l'eau de pluie n'était pas forcément potable, mais me dire que c'est à cause de l'homme, ça, j'avais pas du tout réalisé.
Donc oui, ça c'est... Et une autre étude, moi, qui m'a beaucoup marquée, c'est 98% des sols en France sont pollués. C'est une étude de l'INRA. Même les sols de montagne, de forêt, etc. Pourquoi ? Parce que c'est en moyenne 15 produits chimiques, donc beaucoup de pesticides, juste parce que c'est redistribué par l'eau de pluie, en fait, le ruissellement des eaux, etc. Donc, même des terres qui n'ont pas été transformées directement par l'homme, elles reçoivent cette eau de pluie et elles sont
beaucoup d'hormones aussi, il me semblait, polluées. Avec notamment les pilules contraceptives et ce genre de choses.
Qui polluent aussi les cours d'eau, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est une frontière planétaire qui est extrêmement dépassée. Et une autre, c'est les cycles de l'azote et du phosphore. Donc là, on revient à ton futur épisode sur l'agriculture. Mais là-dessus, en fait, localement, ces frontières sont plus déplacées que celles du climat. Par exemple, alors l'azote et le phosphore, c'est des éléments...
Quand tu dis plus déplacés, ça veut dire...
Plus dépassés, pardon. Okay. L'azote et le phosphore, ce sont des éléments chimiques nécessaires à la vie, comme le carbone. Qui ont des cycles comme le carbone. Et en fait, on perturbe ces cycles parce qu'on déverse de grandes quantités d'engrais dans les champs à base d'azote et de phosphore pour doper les rendements et qui viennent polluer massivement les terres, les eaux et en particulier les eaux. Et ça provoque des dérèglements. Alors, en France, on connaît bien la question des algues vertes, parce qu'il y a aussi les lisiers animaux, etc., mais aussi les engrais. Et du coup, ça crée des zones mortes dans les cours d'eau, mais aussi en zone côtière. Il y a à peu près 400 zones côtières qui sont des zones mortes parce qu'il y a eu surproduction d'algues due au dopage en azote et en phosphore et qui mangent tout l'oxygène finalement qui n'est plus disponible du coup pour les autres formes de vie.
Maintenant qu'on a évoqué tout ça, il y a quand même un sujet. On est tous les deux podcasteurs, on a tous les deux des podcasts sur la transition écologique du point de vue général. Une question que je me pose quand même au quotidien, c'est comment est-ce qu'on fait pour partager plus massivement ce message? Comment est-ce que toi, tu as réussi à faire ça?
Alors, je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai essayé, en tout cas.
Ouais. Mais tu as eu quand même des retours où
oui.
Tu t'es dit, tiens, ça a eu un impact particulier?
Alors, c'est difficile de savoir exactement le profil des gens qui t'écoutent. En tout cas, un retour qui m'a vraiment marqué, c'est celui d'une voisine à moi, alors qu'il n'a pas écouté par hasard, parce que voilà, elle était au courant, mais elle n'y connaissait absolument rien. Et mon objectif avec ce podcast, c'était principalement d'essayer de parler à des gens qui justement n'ont pas de connaissances sur ces questions-là. Comme j'imagine, voilà, c'est aussi un peu ton objectif d'essayer de parler à des nouvelles personnes qui sont pas déjà pris conscience.
J'ai un gros axe autour de la pédagogie. Malheureusement, au bout de 130 épisodes, parfois, je me rends compte que, en fait, moi, j'ai appris trop de choses par rapport aux gens qui écoutent un ou deux épisodes de temps en temps. Et donc, il faut réussir à simplifier, mais c'est pas forcément évident. Ouais.
Voilà, mais ça, c'est un des enjeux. Et donc, c'était un des objectifs du podcast. Et ça m'a fait vraiment très plaisir parce que non seulement elle avait aucune connaissance scientifique et très peu de connaissances sur ces sujets. Et non seulement elle a écouté tous les épisodes intégralement et ça lui a fait prendre conscience et elle a compris de quoi on parlait et elle a pris conscience du problème et elle s'est mise dans l'action. Enfin, je veux dire, c'était vraiment quelque part un peu le Graal. Voilà, moi, c'est ça, évidemment, que je vise. Après, on sait qu'on parle aussi, et c'est très bien, à des gens qui ont déjà fait un bout du chemin. Et donc, l'enjeu, c'était à la fois d'être très accessible pour des personnes. Donc, c'est vraiment le métier de vulgarisation scientifique, hein, qui est mon métier de journaliste. Donc, de prendre des sujets qui sont complexes, mais de les mettre à la portée de tous, parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas comprendre, en fait. C'est juste la manière dont on l'explique, mais il y a toujours les bons mots, la bonne façon de l'expliquer. Et je remercie aussi, du coup, tous les intervenants de mon podcast qui ont fait ce travail de façon brillante. Et donc, voilà, de se dire que ça doit parler non seulement à des gens qui n'ont pas du tout de connaissances, mais aussi nourrir des personnes qui viennent chercher plus d'infos sur ces sujets. Et ça, j'ai eu plein de retours, pour le coup, de gens qui m'ont dit, voilà, pourtant qui sont même des gens déjà engagés sur ces sujets et qui m'ont dit, j'ai appris plein de choses. Donc, ça fait vraiment plaisir.
Ouais, moi, je pense que les retours qui me marquent le plus, c'est ceux qui, effectivement, des gens que je ne connais pas et qui viennent me voir et qui me disent, je ne connaissais pas du tout ces sujets-là. Et ça, pour le coup, je trouve... Bon. Il y a un petit égo trip aussi de « Ah bah tiens, j'arrive à faire découvrir des trucs à des gens qui connaissent pas ces sujets-là. » Mais effectivement aussi, les plus sympas, c'est quand... récemment, j'ai un ami assez proche qui m'envoie des messages en me disant « Ça y est, je me suis mis à écouter The Big Shift. » Alors qu'on se voit, je pense, toutes les semaines depuis 10 ans et que ça fait 3 semaines là qu'il se met à écouter The Big Shift et qu'il a écouté 5 ou 6 épisodes. Et ça aussi, c'est des grosses victoires, je pense. Mm-hmm.
Mais ce qui m'a vachement touché, c'est de... j'ai reçu des messages via les réseaux sociaux de personnes qui me disent « J'ai écouté le podcast et du coup, j'ai pris conscience. » Et ça, voilà, ma vie ne sera plus la même, en fait. Il y avait le avant et le après. Et c'est vrai que ça, tu te dis, même si ça ne concerne pas beaucoup de gens, en fait, c'est des pépites, en fait. Voilà, chaque personne compte. Donc, ouais, ça a beaucoup de sens.
Mais écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, que tu aurais voulu qu'on aborde dans le podcast, là?
Peut-être justement parce que l'objectif final de tout ça, enfin de parler de ces sujets, d'expliquer, de sensibiliser, c'est aussi de mener à l'action. Hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher, voilà, il y a quand même une véritable urgence. Et donc l'objectif, c'est qu'un maximum de personnes contribuent à la transformation du monde dans lequel on vit. Et du coup, il y a un certain nombre de gens qui, suite à voilà, soit des conférences ou à l'écoute des podcasts, viennent vers moi et me disent mais je suis perdue, je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il faut pas rester justement bloqué sur cette prise de conscience. Déjà parce que c'est hyper anxiogène, alors que le meilleur médicament finalement à l'éco-anxiété, etc., c'est quand même vraiment l'action. Et puis se retrouver dans une action aussi collective avec d'autres personnes et de du coup trouver une énergie positive et constructive. Et donc ça, ce que je réponds souvent, c'est que finalement, il y a tellement de moyens d'agir, tellement de chemins qu'il faut trouver le sien propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une attente finalement. La clé, c'est de trouver l'endroit où on est bien et les personnes avec lesquelles on a envie de faire. C'est un chemin finalement en soi. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps, ça peut être rapide, mais ça peut aussi prendre du temps et c'est pas grave. L'important, c'est d'entamer ce chemin, d'essayer des choses, de voir ce qui nous touche vraiment, nous personnellement, et d'arriver à trouver sa place en fait. Et que c'est voilà, c'est ce qui nous permettra d'agir dans la longueur, d'être résilient et de justement d'y trouver un sens.
Et toi, dans la mise en action, la plupart du temps, les gens vont me parler de leur travail. Ils vont me dire ah oui, mais du coup, mon travail manque un peu de sens. Comment est-ce que je me transforme? Est-ce que je dois quitter mon job? Toi, tu as quand même décidé d'arrêter ton métier de journaliste normal pour être indépendant. Tu arrives à en vivre. Comment s'est passée la transformation de ça? Alors, dernière limite, c'est quelque chose qui te. Enfin, tu arrives à vivre de ce projet ou pas?
Pas du tout de la même façon qu'avant.
Ouais.
J'ai envie de dire que le passage à un mode de vie sobre aide beaucoup. Du coup, c'est comme tout à l'heure ta question, est-ce qu'on peut vivre de l'agroécologie? Oui, mais en réduisant le gaspillage et en arrêtant de manger de la viande ou en limitant sa consommation de viande. De la même façon, voilà, est-ce qu'on peut transformer son métier? Alors, c'est peut-être l'engagement finalement, un des engagements les plus importants, parce que c'est vraiment un bouleversement profond dans ta vie, dans justement tes revenus, etc. Mais le fait de changer de mode de vie, ça permet de aussi réduire ses besoins et sans d'ailleurs percevoir ça comme un sacrifice, parce que ma vie aujourd'hui a beaucoup plus de sens qu'elle n'en avait avant. Donc je suis beaucoup plus heureuse, même en ayant pris conscience de cette réalité, des enjeux écologiques et même en gagnant beaucoup beaucoup moins et voilà, mais c'est vraiment un très beau chemin.
Merci beaucoup. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est que on a été mis en relation par Pierre Gilbert, le fondateur de Sator, mais ça faisait quelques mois et du coup j'ai complètement oublié que ça venait de là. Pierre, je sais que tu vas écouter jusqu'ici, donc merci pour la mise en relation, c'est très sympa. Et si vous, d'ailleurs vous voulez consulter un cours beaucoup plus long d'Audrey, donc qui dure une dizaine d'heures, je pense, sur Sator.
Oui, tout à fait.
Il est sorti ou pas?
Non, il n'est pas encore sorti.
Ah, donc c'est la surprise.
À la rentrée.
À la rentrée de
2024, donc septembre.
Ok,
septembre.
Donc rentrée scolaire 2024, un cours sur les frontières et les limites planétaires avec Audrey Boilly sur Sator, qu'on a déjà mis en avant sur le podcast. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur thebigshift.fr et puis vous pouvez aller regarder. Il y a même, il me semble, un petit code promo qui vous attend si vous allez par le site de The Big Shift pour aller commander une masterclass de chez Sator de Pierre Gilbert. Merci Pierre pour la mise en relation. C'était trop trop cool. Ravi d'avoir enregistré avec une podcasteuse. Ça fait très très plaisir.
Très heureuse aussi.
Et je vous dis à très bientôt et moi je vais préparer mon épisode de cet après-midi.
Oui. Salut.
C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.
C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.